Voilà, vous avez en avant-première le titre de mon message, du coup. C'est vraiment une joie d'être parmi vous. Donc bonjour à toutes celles et ceux que j'ai pas vus, encore à qui j'ai pas pu dire bonjour tout à l'heure. Donc on m'a très bien présenté. Thierry Morvan, animateur paroissial à la paroisse de Corsier-Corzeau, pour ceux qui connaissent. Ça fait presque 6 ans maintenant que je travaille là-bas. Et je suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse Noémie et notre fille de 1 an, qui est, voilà, qui sont derrière. Ah, donc merci de nous accueillir, et puis je me réjouis aussi de pouvoir discuter un peu avec vous aussi après, d'avoir cette joie de pouvoir partager. Ce que je vous propose, c'est la lecture de 12 versets, un passage que plusieurs d'entre vous, je pense, connaissent, dans l'Évangile selon Matthieu. On va prendre le chapitre 2, on va juste prendre les 12 premiers versets du chapitre 2. Alors le texte commence en disant: Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: « Mais où est le roi des Juifs qui doit naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla alors tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent: « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor. Ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit: « Lève-toi, prends le petit et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et moins qui était à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Alors voilà, c'est un texte qui est assez adapté. J'ai à peu près une semaine de retard, vous me pardonnerez, mais on est encore plus ou moins dans le temps où on parle de l'épiphanie. Ce qui est intéressant avec les textes qui entourent la naissance de Jésus, que ce soit les différents textes de Noël, mais aussi ce texte finalement des mages, c'est qu'on se les a appropriés d'une façon à faire des textes un petit peu gentils, inoffensifs. On les voit souvent comme des contes de Noël, un peu gentils, hein, comme ça. Alors que, à y regarder de plus près, l'histoire des mages, c'est une histoire assez terrible. C'est une histoire de mensonges et de manipulations, avec Hérode qui fait croire aux mages qu'il veut adorer Jésus et puis qui essaie d'obtenir des informations auprès d'eux. Puis après, les mages qui ne reviennent pas voir Hérode et lui qui se sent trompé, qui se met en colère. Et puis ça finit par un massacre. Et ce que j'aime dans cette dimension, c'est que ça rend l'histoire très vraie. Parce que la réalité du monde, la réalité de nos vies, c'est pas toujours des gentils contes de Noël où tout se passe bien avec les bergers et puis les animaux près de Jésus. Il y a la réalité des fois du mal, de l'opposition, de l'épreuve. Et finalement, tout ce texte est traversé par cette réalité. Mais il y a une autre réalité dans ce texte. Il y a une personne qui n'est pas nommée. Il est un peu en arrière-plan. Il est un peu dans les coulisses, j'ai envie de dire. Si ce texte était une pièce de théâtre, c'est quelqu'un qu'on ne verrait pas sur la scène. Et pourtant, ce personnage intervient discrètement, tout au long de l'histoire, pour la diriger. Ce personnage qui n'est pas nommé dans le passage que je vous ai lu, c'est Dieu. Et finalement, ce texte, c'est aussi l'histoire de la façon dont Dieu va discrètement guider les événements pour accomplir son plan de salut. Il y a 2 semaines, et puis ces dernières semaines, un personnage a fait l'actualité, par son décès principalement. Le pape émérite Benoît XVI, décédé, on en a beaucoup parlé. Et pour être très honnête avec vous, même si je suis loin d'être d'accord théologiquement et dans mes convictions avec tout ce que ce monsieur a dit, il a écrit un livre en 2012 que j'ai trouvé très intéressant et qui s'appelle « L'enfance de Jésus ». Et dans ce livre, l'ancien pape Benoît XVI défend la thèse selon laquelle, dans tous les écrits qui concernent l'enfance de Jésus, en réalité, tout l'évangile est déjà annoncé. Toutes les choses qui concernent la vie de Jésus sont déjà annoncées dans les récits de l'enfance. Et ce que je vous propose de faire avec le texte de ce matin, c'est de voir comment la vie de Jésus, comment le ministère de Jésus, comment l'œuvre de Jésus sont déjà annoncées dans ce petit texte qui a l'air de rien, de l'adoration des mages. Et la première chose qui nous est annoncée dans ce texte et qui va ensuite être manifestée dans la vie de Jésus, c'est le fait que Jésus, c'est quelqu'un qui dérange. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il y a quelques années, je discutais avec une amie chrétienne, engagée, fervente. Vous savez, le genre de personne qui lit sa Bible tous les jours, qui prie, qui est ancrée dans la parole. Et puis elle me disait, elle me confiait comme ça, des fois j'ai un peu de peine à lire les évangiles. Je préfère les épîtres, je préfère les lettres de Paul par exemple. Parce que dans les évangiles, je découvre un Jésus un peu bizarre, un peu dérangeant, un peu marginal. Puis en l'écoutant, je me suis dit, peut-être que cette femme a bien compris finalement qui est Jésus selon les évangiles. Parce que Jésus dans les évangiles, c'est un personnage qui dérange, qui est un peu bizarre, étonnant. Il va déranger le pouvoir religieux de son époque. Vous savez que les scribes, les spécialistes de la loi, les pharisiens l'aiment pas beaucoup. Il va déranger le pouvoir politique. Même, il va aussi déranger le pouvoir économique. Souvenez-vous de ce qu'il fait aux marchands du temple à un moment. Mais cet aspect de Jésus qui vient bousculer comme ça, ça commence dès son enfance. Il vient déranger Hérode et il vient troubler toute la ville de Jérusalem par son arrivée. Pour situer le contexte, Hérode, c'est un roi qui est considéré par beaucoup de juifs à l'époque comme un usurpateur. Pourquoi ? La raison est simple. Il a été installé là par les Romains, l'envahisseur. Et puis, c'est le fils d'un étranger, donc il n'a pas le sang pur. Et tout ça, ça l'amène à être un peu paranoïaque. Il a fait tuer sa femme et 2 de ses enfants parce qu'il avait peur d'un coup d'État. Alors Hérode, on peut le ranger un peu dans cette catégorie qui a été largement représenté dans l'histoire de ces dictateurs un peu paranoïaques comme ça qui ont tout fait pour garder le pouvoir. Et donc forcément, quand des gens viennent lui annoncer que le roi des Juifs va naître, Hérode se sent menacé. Hérode se sent menacé. Et toute la ville est troublée avec lui. Alors ce que va faire Hérode, c'est qu'il va appeler les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, avec leur grande expertise biblique, leur expertise théologique, pour savoir, mais où doit naître le Messie? Et vous savez, même à notre époque, il arrive encore que des hommes politiques ou des dirigeants politiques fassent appel à des théologiens pour avoir leur expertise biblique sur un sujet. Par exemple, pour ceux qui, d'entre vous qui se souviennent du président George W. Bush, qui a présidé les États-Unis en 2001 et 2009, au moment où il avait déclenché la guerre en Irak en 2003, pour convaincre ses différents alliés de l'OTAN, il avait appelé Jacques Chirac, président de la République française à l'époque. Et il avait dit, j'imagine un peu la conversation, salut Jacques, comment ça va, etc. Ils avaient discuté. Et puis après, il lui avait dit, il faut qu'on parte faire la guerre en Irak. Et un des arguments qu'il avait utilisé en parlant à Jacques Chirac, c'était, on va aller faire la guerre contre Gog et Magog. Alors j'imagine que Jacques Chirac, en écoutant Gog et Magog, avait dit, oui, d'accord, très bien. Il avait posé le téléphone, il s'était tourné vers tous les types qui étaient dans la salle avec lui, puis il avait demandé, c'est quoi Gog et Magog ? Et sans doute aucun de ses conseillers ne savait, mais on lui avait dit, ouais, mais c'est quelque chose dans la Bible. Alors ce que Jacques Chirac avait fait, c'est une histoire vraie, il avait appelé un théologien vaudois. Il l'avait eu au bout du fil et il avait demandé, qu'est-ce que c'est Gog et Magog ? Et ce théologien vaudois lui avait dit, c'est quelque chose qui apparaît à plusieurs reprises dans la Bible, c'est notamment cité dans l'Apocalypse, et ça définit des forces du mal qui vont s'opposer en alliance avec Satan au peuple de Dieu. Alors je ne sais pas ce que Jacques Chirac avait pensé de ça, ça ne l'avait pas trop convaincu par rapport à la guerre en Irak en tout cas. Mais c'est tout ça pour dire que des choses comme ça peuvent encore arriver aujourd'hui. Alors cet Hérode, lui, il fait appel à ses spécialistes, mais dans un autre but. Il veut la mort de Jésus. Et il prend au sérieux ce que disent les mages. Il prend au sérieux la possibilité que le Messie arrive. Mais ça lui donne envie de s'y opposer. Et moi, j'aimerais juste qu'on s'attarde une minute sur ces spécialistes de la loi, les grands experts de la Bible, ceux qui ont pu dire très rapidement à Hérode où est-ce que le Messie devait naître. Je me pose une question. Pourquoi il n'y en a aucun qui allait voir Jésus ? Eux, grands spécialistes, eux qui connaissaient la Bible, eux qui tout d'un coup voient la possibilité s'entrouvrir de l'accomplissement de la promesse. Comment ça se fait que dans le texte, les seules personnes qui soient allées voir Jésus et l'adorer, ce soient ces mages venus de l'étranger? C'est assez étonnant quand même. Parce que ces mages, aux yeux d'un bon juif, ils ont que des désavantages. Déjà, ils sont étrangers. Donc, ils font pas partie du peuple élu. Ensuite, c'est des mages. Donc, en traduction moins politiquement correcte, c'est plus ou moins des espèces d'astrologues, un peu sorciers, un peu bizarres. Quelque chose qui est plutôt condamné dans la Bible. Et en plus, on voit qu'ils n'ont pas une très grande connaissance biblique, parce qu'ils sont obligés de poser la question, mais voilà, où est-ce qu'il doit naître, etc. Et pourtant, face à Hérode et face aux spécialistes de la loi, c'est ces étrangers, astrologues, qui ne connaissaient pas très bien les Écritures, qui sont les seuls à être venus sur le lieu où Jésus était pour venir l'adorer. Et je crois que c'est les seuls à avoir compris à ce moment-là qui était vraiment Jésus. Parce que c'est les seuls à être venus l'adorer. Alors moi, je me retrouve un peu dans les scribes, honnêtement. Fils de pasteur, étudiant en théologie, né entre deux pages de Bible. Je suis un peu un spécialiste de la loi, quelque part. Et donc ça me renvoie à la question, mais si ces spécialistes de la loi ont été indifférents au moment où le Messie est arrivé, est-ce que moi, j'ai vraiment compris qui est le Christ ? Il y a un peu plus d'un an, j'ai passé 6 mois à visiter chaque semaine des détenus en prison, en cellule. Et souvent, j'en ressortais, et puis à la fin des 6 mois, j'en suis ressorti avec la conviction de me dire, mais peut-être que je suis plus respectable sous bien des rapports que ces gens. Sans doute que je connais très bien la Bible, je l'ai étudiée, fils de pasteur, blablabla, blablabla, blablabla. Mais pourtant, j'ai rencontré des gens en prison qui me faisaient dire, j'ai l'impression qu'il a mieux compris qui est Jésus que moi. Certains, par leur confiance, par leur foi, par leur amour pour Dieu, par leur foi dans son pardon aussi, m'ont fait dire, moi le scribe, le spécialiste de la loi, je reçois des leçons de ces personnes-là. Et ici dans ce texte, les seuls à avoir vraiment compris, saisi qui était Jésus, ce n'étaient pas les spécialistes de la Bible. C'étaient ces mages étrangers, un peu étranges, un peu bizarres. Jésus renverse les choses. Et j'aime bien dire que le royaume de Dieu, c'est souvent un royaume à l'envers, par rapport à nos valeurs, par rapport à ce à quoi on s'attend. Jésus renverse les choses dès sa naissance. Les événements qui entourent sa naissance sont étranges. Ce n'est pas les spécialistes de la loi qui auraient dû venir l'adorer. C'est des étrangers, c'est des astrologues. Jésus, c'est celui qui renverse les choses en disant plus tard à ces mêmes spécialistes de la loi, aux pharisiens aussi, vous savez, les prostituées et les collecteurs d'impôts, ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale, mais aussi tout en bas de l'échelle spirituelle, ceux qui sont considérés comme les pires aux yeux de Dieu, les moins fidèles à la loi, eh bien ces gens-là, ils entreront dans le royaume de Dieu avant vous. Alors la chose importante, c'est pas de savoir si je fais partie des insiders qui sont dans l'église depuis 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, ou 70 ans, et qui connaissent la Bible par cœur. Mais c'est la question que nous pose ce texte. Est-ce que j'ai vraiment compris, est-ce que j'ai vraiment saisi qui est Jésus ? Et si j'ai saisi qui il est, ben je ne vais pas m'y opposer, comme Hérode, mais je ne vais pas non plus y être indifférent, comme les spécialistes de la loi. Au contraire, je vais venir l'adorer, comme les mages. Une autre chose qui est annoncée dans cette histoire et qu'on retrouve dans toute l'histoire de Jésus, c'est que Dieu accomplit son plan malgré l'opposition. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Je l'ai déjà dit, mais c'est une histoire assez horrible. Laissez-moi vous la résumer encore une fois. Un roi paranoïaque essaye de manipuler des mages pour pouvoir aller tuer un bébé. Une fois qu'il a échoué, il fait massacrer tous les enfants de moins de 2 ans dans la région de Bethléem. Voilà un bon résumé de l'histoire de ce texte. Et pourtant, Dieu, dans toute cette histoire, intervient non seulement pour conduire les mages jusqu'à Jésus avec ce signe, mais aussi pour les avertir en songe de ne pas retourner vers Hérode, puis après pour faire fuir la famille de Joseph avec Jésus en Égypte. Cette intervention discrète mais décisive de Dieu, ça renvoie à toute l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus, c'est l'histoire de la façon dont Dieu intervient dans l'histoire, malgré l'opposition, malgré les plans de l'ennemi, malgré des fois les plans des puissants et des autorités politiques, pour accomplir son œuvre de salut. Bien des gens à l'époque de Jésus s'attendaient à un Messie glorieux, victorieux, qui brille comme ça, qui peut-être qui lévite un petit peu, qui impressionne, qui arrive avec des chars et des armées. Puisqu'ils ont eu un pauvre type qui a fini rejeté par tous et mort sur une croix. Mais cette croix, peut-être que certains d'entre vous portent, 2000 ans plus tard, c'est le signe du salut. Vous voyez, Dieu est tellement, tellement fort dans ce qu'il fait que 2000 ans après, une histoire horrible est devenue une belle histoire dont on aime se souvenir chaque année. C'est sa spécialité à Dieu. Retourner des histoires, parfois dures, pour accomplir son plan de salut. Et c'est une des choses que j'ai pu apprendre en quelques années, bien sûr j'ai pas beaucoup d'années de ministère, mais en quelques années de travail à la paroisse de Corsiers, en accompagnant des gens, en les rencontrant, en les visitant, j'ai été frappé de voir comment Dieu, parfois dans des histoires si difficiles, dans des épreuves si profondes, arrive discrètement à retourner les choses pour accomplir son plan de salut. L'histoire des mages et tout ce qui l'entoure, c'est un appel à faire confiance à Dieu. Il veut nous sauver malgré tout et il accomplit son plan. Alors je finirai par nous poser une question. Quelle est notre réponse ? Je crois que la seule réponse adaptée face à un Dieu qui accomplit son plan de salut comme ça, c'est l'adoration. Et c'est la réponse des mages en fait. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'adoration des mages, c'est une adoration coûteuse. L'or, l'encens et la myrrhe, c'est précieux. Ça coûte quelque chose. Bon, vous savez, des fois, quand on est invité chez des gens et qu'on est à 5 minutes de partir, je vais vite faire les fonds de tiroir pour voir si je peux trouver une petite botte de chocolat qui traîne comme cadeau. C'est pas ce qu'on fait les mages, là. Je vois qu'il y a des gens qui se sont reconnus dans l'assemblée. C'est pas ce qu'on fait les mages. Leur adoration, elle leur a coûté quelque chose. C'était précieux, ce qu'ils ont apporté à Jésus-Christ. Et l'adoration aussi dans nos vies, parfois, ça peut nous coûter. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui peut nous donner le courage? Quel est le carburant qu'on peut utiliser pour pouvoir apporter à Dieu une adoration quand ça nous coûte? Parce que des fois, ça coûte de chanter comme on l'a fait avant. Ça coûte de dire à Dieu merci. Ça coûte de dire à Dieu qu'il est bon. Des fois, dans les circonstances de nos vies, ça coûte. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Moi, j'imagine bien les mages, parce qu'ils ne sont pas arrivés ni en train ni en avion. Hein. Ça fait des semaines qu'ils sont, alors je ne sais pas, à pied ou à dos de dromadaire, mais bon, je ne pense pas que ce soit très confortable. Je les imagine bien fatigués, poussiéreux, peut-être qu'ils ont faim. Et là, tout d'un coup, ils ont ce moment de joie quand ils se rendent compte qu'ils vont pouvoir adorer le Messie. Quelle est la joie qu'ils ont ressentie? C'est la joie de savoir qu'ils allaient enfin rencontrer celui qu'ils attendaient. La joie de pouvoir adorer celui qui mérite l'adoration. Et pour nous, qui sommes présents ce matin et qui sommes là pour louer Dieu, pour le célébrer, pour écouter sa parole, il y a une joie supplémentaire dont les mages n'étaient pas conscients. C'est la joie de savoir que ce petit enfant a grandi et qu'il est devenu celui qui nous sauve et qui accomplit son plan malgré toutes les épreuves et malgré l'opposition. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. » C'est-à-dire que même Jésus a eu besoin du carburant de la joie pour supporter la souffrance de la croix. Alors cette joie que les mages ont ressentie, qu'ils ont vécu, cette joie qui ne dépend pas des circonstances, c'est le carburant de l'adoration. Et l'adoration nourrit en retour notre joie. Il y a quelques années, en étant au Mozambique pour quelques semaines, avec mon épouse, on avait rencontré un pasteur qui nous avait profondément touchés par sa joie. Il semblait être tout le temps joyeux. Et moi, quand je vois des gens comme ça, j'ai envie de leur demander « Mais c'est quoi ton secret ?» Alors on avait un peu discuté avec lui. Et il nous avait dit, il nous avait parlé de son enfance à Maputo, capitale du Mozambique. Il nous avait dit, j'ai pas eu de père. Et ma mère m'envoyait tous les jours à la déchetterie pour chercher à manger pour la famille et pour ramener à la maison des boîtes de conserve ou des bouteilles, des choses qu'on pourrait revendre pour subsister. Et il m'a dit, Dieu m'a sauvé de ça. Dieu m'a sorti de ça. Alors j'ai la joie de pouvoir adorer un Dieu qui m'a vraiment sauvé. Alors, j'aimerais vous laisser cette dernière exhortation, ce dernier encouragement. Je vous en prie, j'ai presque envie de dire, je vous en supplie. Cultivez votre joie par l'adoration. Et cultivez votre adoration par la joie. Ne soyez pas comme Hérode, qui s'est opposé au Messie. Surtout, ne soyez pas comme les spécialistes de la loi, qui ont été un petit peu indifférents, malgré leur connaissance biblique et théologique. Mais devenez plutôt comme les mages, qui ont eu la joie de venir adorer le Messie. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et Père, quelle joie de pouvoir nous réunir ce matin, de pouvoir t'adorer, te louer, te remercier, écouter ta parole. Seigneur, c'est vraiment un privilège. Continue de faire grandir en nous, ou peut-être de raviver en nous cette joie de te connaître et de t'adorer. Merci Seigneur pour ton salut accompli en Jésus-Christ et pour ta fidélité dans toutes les circonstances de nos vies. Nous pouvons te faire confiance Seigneur et nous te bénissons pour ça. Amen.